Europe, mais qui voit grand? Ce sera notre dossier Afrique Éco. L'humour de Maman également au programme avec la politique gondouanaise. Mais on commence d'abord par les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Sébastien.
Du foot avec vous. Et l'heure du retour en club pour les joueurs engagés en sélection. L'heure du bilan aussi pour les nations qui ont disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Certaines y ont laissé des plumes comme la Guinée. D'autres ont confirmé leur intention d'aller chercher un ticket à l'image des Comores ou de la RDC en tête de son groupe à 4 journées de la fin des éliminatoires avec une longueur d'avance sur le Sénégal et le Soudan. Les Léopards se disent que le rêve d'une nouvelle Coupe du Monde 52 ans après n'est finalement pas si éloigné que ça, Pascal Mouangala.
Cette fois-ci, c'est la bonne, beaucoup de Congolais sont unanimes, les Léopards vont se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Exemple avec Léonard Diango, un fan de Lubumbashi.
Il y a l'état d'esprit qui est des collectifs, la rage de vaincre de ces jeunes joueurs. Et de deux, c'est les contenus même du groupe. Tous ces jeunes joueurs sont pleins de talent.
Et rien ne peut barrer la route aux Léopards de Sébastien Desabre, c'est la vie. Tout du moins de l'ancien international congolais, médaillé de bronze à la CAN 1998, Didier Kanouké.
Notre équipe nationale est en train de faire l'exploit. Les joueurs sont déterminés. Un entraîneur bien qualifié. Je ne vois pas ce qui va nous empêcher.
Prudence tout de même provient le journaliste sportif chez Léopards. Foot.cd, Djolga Luvundisakio, il y a encore du chemin à faire.
L'équipe nationale de l'RDC a souvent du mal à bien négocier les dernières rencontres des éliminatoires du Mondial. 2018 avec les coachs Florent contre la Tunisie et en 2022 avec Hector Cooper face au Maroc.
Pour lui, l'RDC a intérêt à bien négocier les deux matchs à domicile contre Sénégalais et Soudanais sur les 4 qui restent. Pascal Mangala, Lubumbashi.
Et les 4 dernières journées, elles auront lieu en septembre et en octobre prochain.
Le foot des jeunes, également à la une, Antoine. Et en Côte d'Ivoire, incertitude autour de la CAN U20.
Avec la fuite hier d'un document confidentiel qui a fait l'effet d'une bombe dans le pays, à un mois du coup d'envoi, la Côte d'Ivoire se serait désistée de l'organisation, mais rien d'officiellement acté, Yoann Gourlet.
Ce mercredi matin, un texte signé de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, à destination des membres du COCAN, le comité d'organisation de la CAN U20, a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il expliquait que le gouvernement ivoirien avait annoncé que la Côte d'Ivoire se désistait de l'organisation de la CAN U20. Le texte dit aussi que la CAF, la Confédération Africaine de Football, a été prévenue de cette décision. Une lettre interne aux instances donc, mais qui a fuité et a été reprise par l'ensemble de la presse sportive ivoirienne et internationale. Du côté de la Fédération Ivoirienne, un haut placé explique que la lettre aurait fuité délibérément pour mettre un coup de pression à la CAF. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore pour quelle raison l'État ivoirien a fait cette annonce à la FIF. Certaines sources évoquent des questions budgétaires. On se souvient que quelques jours avant la CAN, organisée l'an dernier en Côte d'Ivoire, la CAF avait demandé au gouvernement de payer les primes des sélections qualifiées pour la compétition, ce qui avait provoqué des tensions au sein des instances du foot ivoirien. Mais pour le moment, la FIF et la CAF ont assuré que le désistement de la Côte d'Ivoire n'était pas officiel. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
La CAN U20 qui doit se tenir du 26 avril au 18 mai prochain.
Un dossier qu'on suivra bien sûr sur RFI. Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h45 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité mondiale et cette trentaine de dirigeants attendus en France pour un nouveau sommet sur l'Ukraine. Paris et Londres veulent prouver à Kiev la pérennité de leur soutien en parallèle de l'initiative diplomatique des États-Unis. Volodymyr Zelensky est d'ailleurs arrivé en France dès hier pour s'entretenir avec son homologue Emmanuel Macron qui annonce une enveloppe de 2 milliards d'euros. Le dirigeant français estime qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager une levée de sanctions contre la Russie. C'est pourtant l'une des exigences de Moscou pour que soit appliquée la fin des hostilités en mer Noire. Israël menace une fois encore de s'emparer de nouveaux secteurs de la bande de Gaza si le Hamas ne libère pas les otages. La reprise brutale des bombardements israéliens il y a une semaine a fait au moins 830 morts dans l'enclave selon le mouvement islamiste, 142 000 personnes déplacées. La Corée du Sud en proie aux pires incendies de son histoire. Les feux qui ravagent le sud-est du pays ont causé la mort d'au moins 26 personnes selon le dernier bilan des autorités. Près de 36 000 hectares sont partis en cendres et le feu continue de se propager rapidement, selon le chef de la division des catastrophes et de la sécurité. Et puis, il y aura bien un procès contre Jair Bolsonaro. La Cour suprême brésilienne estime que l'ex-président doit être jugé pour une tentative de putsch contre son rival Luiz Inácio da Silva, dit Lula. Décision historique et petit séisme politique, le procès pourrait débuter sur une lourde peine de prison pour l'ancien dirigeant. On connaît l'homme qui répare les femmes en RDC, le célèbre prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege et sa fondation qui aide les femmes mutilées à se reconstruire. Eh bien, coup de projecteur ce matin sur d'autres magiciens du corps humain en RDC. Une équipe de kinésithérapeutes et d'orthopédistes qui font marcher à nouveau les patients amputés d'un membre grâce à une prouesse technique. Des prothèses fabriquées sur mesure, imprimées en 3D, sur place, à Kinshasa. Le moyen d'offrir une seconde vie dans un pays où les personnes à mobilité réduite sont encore trop souvent marginalisées. C'est notre reportage du jour.
Tu contractes les genoux, on y va.
Éric Bouilly, orthoprothésiste, est en pleine séance de rééducation. Devant lui, sa patiente réapprend à marcher avec une prothèse de jambe.
La masse telle qu'elle est là, c'est un cycle. Ça commence par l'attaque du talon jusqu'au décollement du pied. Et tout ça, il faudrait que la personne sache comment les faire. Et donc, on l'accompagne. Donc, avec toutes les consignes possibles.
Les mains agrippées à deux barres de maintien, Meda se familiarise avec sa nouvelle prothèse. À 10 ans, la jeune fille a perdu sa jambe après avoir été percutée par une voiture.
Toi, tu regardes devant toi. Merci.
Un large sourire aux lèvres, elle enchaîne les exercices qui lui donnent l'espoir de pouvoir jouer à nouveau avec ses copines à l'école.
Quand on sort la récréation, moi, j'assis seulement, je regarde seulement comme mes amis jouent. J'ai dit seulement les jours que je vais prendre les prothèses. Moi aussi, j'ai commencé à jouer, je vais commencer à danser, je vais commencer à faire tout.
Dans ce centre de Kinshasa, les prothèses sont conçues sur place et en moins de 48 heures grâce à un simple téléphone qui scanne en 3D les moignons des patients.
Nous allons essayer de prendre les scans. Alors là, tu ne bouges pas.
Démonstration Martin Babadi, orthoprothésiste.
C'est de cette façon-là que je prends des mesures sur le patient sans utiliser les plâtres, sans utiliser le mètre ruban. Mais avec les scans, avec les téléphones, je prends mon scan et puis c'est fini.
Les mesures sont ensuite modélisées sur un logiciel. Une fois validées, l'emboîture de la prothèse est imprimée en 3D. Avec cette technologie, les prothèses sont plus confortables et 3 fois moins chères que les prothèses conçues dans des centres publics grâce à des financements partenaires. C'est ce qui a motivé cet ancien judoka venu pour sa première consultation.
Ici, on peut me faire une prothèse de qualité. C'est pourquoi je me suis présenté aujourd'hui. J'ai des prothèses, mais ça ne convient pas. On vous donne ça, mais vous n'arrivez pas à marcher avec ça. Et ça me permettra aussi de faire des mouvements sans béquilles.
En moins d'une année, l'entreprise a déjà appareillé plus de 150 patients. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Un reportage sur ces prothèses fabriquées en 3D en RDC à retrouver, à partager bien sûr sur Internet. Il est venu en France pour interpeller ses homologues sur la situation dans l'Est de la RDC et il est notre invité ce matin pour nous expliquer ce qu'il leur a raconté. Christophe Lutundula, sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat de la RDC, ancien ministre des Affaires étrangères, il connaît donc bien les rouages de la diplomatie. Et au micro d'Esdras Dikoumana, il nous dit tout d'abord, Christophe Lutundula, ce qu'il pense de la récente fusion des processus diplomatiques initiés par l'EAC et la SADC, les communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe.
La fusion n'est pas une bonne chose, à mon avis. Luanda et Nairobi sont complémentaires, certes, mais sont distinctes. Donc, vous les fusionnez. Première conséquence, et qui est dangereuse, c'est que cela veut dire que on légitime les arguments du président Kagame, qui a toujours dit, pas de problème, c'est un problème entre Congolais, et lui, il est dédouané. La deuxième conséquence, elle n'est pas des moindres. Si ou tant qu'on n'a pas encore trouvé un compromis avec l'M23, l'armée rwandaise est fondée à rester en RDC. Alors que nous savons que le compromis avec l'M23 ne peut passer que si le président Kagame avalise, c'est-à-dire que s'il contient les desiderata du président Kagame, notamment d'avoir un espace d'exploitation économique, un espace d'influence. C'est ça les conséquences qu'on ne peut pas minimiser.
Et la question de la négociation directe entre le gouvernement et le M23, vous êtes pour ou contre?
C'est un problème qui ne se pose pas. Pour quelles raisons? Parce que si on entreprend une opération pour humilier le président Tshisekedi, pour humilier le peuple congolais, certainement je ne peux pas accepter.
Comment est-ce que le gouvernement congolais, selon vous, pourrait contraindre le M23 à rendre les parties qu'elle a conquises sans négocier?
Le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise. C'est une évidence qui ne se discute plus. Que le Rwanda sorte de la RDC parce qu'on nous dit que c'est un problème congolo-congolais et que on nous laisse résoudre nos problèmes.
Entretien d'Esdras Dikoumana avec Christophe Lutundula, président de la commission des affaires étrangères du Sénat de RDC. Entretien à retrouver en intégralité vers 6h45, heure de Paris. Mais pour le moment, notre rendez-vous avec l'économie qui nous emmène aujourd'hui à la découverte du plus grand constructeur de bateaux d'Afrique du Sud. Installé au Cap, la société Robertson & Kane, premier fabricant de catamarans de croisière de l'hémisphère sud d'ailleurs. Il appartient depuis quelques années au groupe PPF, une société internationale d'investissement basée en République tchèque. L'ambition est de continuer à exporter dans le monde entier depuis le Cap qui offre une position avantageuse. Dossier Afrique Éco, signé Valentin Hugues.
C'est une succession de gigantesques hangars, les outils résonnent et l'air sent la peinture.
Une fois que la forme du bateau est dessinée, on la façonne ici.
Face à nous, un moule immense, si grand qu'il faut monter plusieurs marches pour voir l'intérieur. Nous sommes avec Stuart Forrest, ingénieur en chef.
Ensuite, il faut retirer le moule et sortir cette grande pièce principale pour passer aux étapes suivantes.
Après 34 ans d'activité, Robertson & Kane fêtera bientôt la sortie de son 3000e bateau, qui est là quelque part au milieu de la quinzaine de catamarans alignés les uns derrière les autres. Nous sommes dans le hangar d'assemblage du produit phare de Robertson & Kane, le Léopard 53PC.
La ligne de production évolue, on ajuste les procédures de construction pour trouver l'enchaînement le plus efficace, avec un séquençage. Ici, Nassief supervise l'étape 3.
Oui, on intègre le moteur, on installe les sièges, la moquette et on s'occupe du plafond aussi.
Une entreprise attachée au fait main et un travail collectif qui rassemble plus de 2000 personnes. Ici, c'est comme une ville dans la ville avec de grandes allées et du monde partout.
Là, nous sommes presque au bout de la chaîne. On peut aller voir une des cabines.
Il faut 3 mois pour construire ces gigantesques catamarans à moteur d'une valeur de plus d'1 million d'euros.
Là, vous avez la chambre. Ce bateau va quitter l'usine la semaine prochaine. Ensuite, on fera tous les tests de vérification au port et il sera prêt à être affrété vers un autre pays.
Vers un autre pays, car 99% de la production est exportée, principalement vers les États-Unis et vers l'Europe. Théolouk a pris les rênes de l'entreprise en 2021.
Au Cap, il y a une excellente articulation de l'industrie maritime avec de nombreux fournisseurs, pour les moteurs par exemple. C'est un port stratégique pour importer les produits dont nous manquons et exporter ce que nous fabriquons. Nous avons aussi la chance d'avoir une municipalité qui nous soutient en favorisant de bonnes infrastructures. La population se passionne pour les bateaux et veut se former dans ce domaine. Ce sont tous ces éléments qui nous permettent de fabriquer nos bateaux au Cap.
Depuis le retour de Donald Trump et de sa politique protectionniste aux États-Unis, Robertson & Kane agit activement pour encourager les accords commerciaux entre les deux pays et faire en sorte que les exportations ne faiblissent pas. Valentin Hugues, de retour du Cap, RFI.
RFI, 4h55 en temps universel. Et avant de retrouver Andréane Mellard pour RFI Matin, l'humeur de Maman qui nous parle de politique aujourd'hui, car Maman, président fondateur, nous dites-vous, exige de voir le bilan de l'opposition gondouanaise.
Oui, notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur et le camp présidentiel sont fatigués de subir les jérémiades de l'opposition gondouanaise à chaque fois que l'élection présidentielle pointe son nez. Pendant le reste de l'année, on n'entend jamais parler de cette opposition aux abonnés absents, mais immanquablement, dès qu'approche le scrutin présidentiel, eh bien, les opposants professionnels sont partout dans les réseaux sociaux et les médias complices. Heureusement que les médias sérieux, les médias publics comme Gondwana TV et Radio Gondwana refusent de jouer à leurs jeux enfantins en ne les invitant jamais dans leur studio pour cracher et répandre leur éternel venin contre l'œuvre fantastique de son excellence président fondateur, cet homme visionnaire qui a façonné la très très démocratique république et tous les gens qui sont heureux d'y habiter. Ses opposants là, ils n'ont d'autre travail que celui de sempiternellement revenir prétendre poser leur candidature à l'élection présidentielle dans le seul but de prendre la place de notre leader bien-aimé. Mais c'est trop facile ça. Vous donc, votre seule raison d'être, c'est être candidat à la présidentielle entre deux élections présidentielles. Vous faites quoi pendant que président fondateur s'occupe de la vie des Gondouanaises et des Gondouanais? Répondez au lieu de rédiger des tracts et de faire des lives sur Facebook. Vous ne voulez pas répondre? Vous savez, notre leader bien-aimé a prévu cette réaction-là, votre réaction puérile-là. C'est pour ça que désormais, avant de venir défier les représentants de la majorité présidentielle dans des débats télévisés, eh ben, vous devez présenter votre bilan. Eh oui, on est au 21e siècle, mes amis. Les batailles électorales se font bilan contre bilan. Ah oui, hein, c'est trop facile de pérorer dans les médias et les meetings à coups de « Ouais, nous allons changer la vie des Gondouanais. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. » C'est trop facile de conjuguer son action au futur simple. Il faut utiliser le présent de l'indicatif et le passé composé ou même l'imparfait. C'est ce que fait président fondateur dans ce pays. Il bossait, il a bossé et il bosse pour le bien-être des citoyens de ce pays. C'est ça son bilan. Et l'opposition, il est où son bilan? Ne venez pas nous dire qu'elle n'a pas de bilan, l'opposition, parce qu'elle n'a jamais été au pouvoir. C'est nul et non avenu. Quand tu viens poser ta candidature pour un job, tu dois étayer ton curriculum vitae, montrer ton expérience professionnelle pour le poste auquel tu postules. Donc, si elle veut être crédible, l'opposition gondouanaise doit montrer son bilan pendant toutes ces années qu'elle a passées dans l'opposition. À lundi.
À lundi, maman, car demain, c'est la parlotte de Charlotte Ntamack qu'on retrouvera sur RFI. En attendant, merci à Thierry Le Saint qui était à la réalisation, Édouard Dupénoat à la rédaction en chef, et merci à vous, surtout pour votre fidélité à la Radio du Monde, ça nous fait toujours très plaisir de vous savoir à l'écoute. On salue d'ailleurs ce matin Arfang Sek qui nous écrit depuis Thiès au Sénégal. Il salue nos informations fraîches et sûres. Un fidèle auditeur nous a-t-il écrit sur l'adresse afriquematin@rfi.fr. On l'en remercie. Tout de suite, RFI Matin débute avec vous, Andréane Mélard. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. RFI Matin jusqu'à 9h, notre tour du monde de l'actualité. Au programme ce jeudi, l'Ukraine, la Turquie, le Soudan du Sud, mais aussi les États-Unis. Au programme, chronique invitée, reportage dans une minute, le journal international. On va parler du sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. C'est aujourd'hui à Paris. Tous les détails à suivre. Belle journée. Bon réveil à toutes et à tous sur la Radio du Monde.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle a été une pionnière du féminisme et de la lutte pour l'abolition de l'esclavage. Olympe de Gouges, figure de la Révolution française, condamnée pour trahison. Elle est Olympe, sous les traits de la comédienne Firmine Richard, dans le spectacle de Franck Salin. Ils seront nos invités.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Le journal en français facile.
L'intérêt de ce journal est qu'il se présente comme un français accessible et inclusif.
Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Grâce à sa transcription en temps réel, ça permet aussi de travailler la lecture.
Retrouvez Adrien Delgrange pour Le journal en français facile tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.